Fait que t'as le droit d'être qui tu es, puis je vais t'aimer de toute façon.
T'en es-tu voulu après une semaine?
Écoute, c'est devenu notre running gag. Ouais. Ben, c'est ça, on est mariés à cette heure, faut que j'en dise.
Ouais, pour le meilleur et pour le pire, ça, c'est le pire. All right. Puis, tu sais, toi, pour les gens qui ne t'ont jamais entendu, SOS Nancy, tu es une spécialiste en, comment on pourrait dire ça?
En coaching familial.
Coaching familial. Yeah. Tu es une éducatrice spécialisée. Tu travailles auprès des enfants et des parents depuis combien de temps déjà?
30 ans, imagine-toi.
30 ans. Tu as commencé jeune. Tu avais 3-4 ans.
Ben, écoute, je suis sortie du cégep, j'avais 21 ans.
Ouais.
Et j'ai travaillé pendant 10 ans moi, dans les centres d'accueil avec les adolescents délinquants.
Ouais.
23 ans, j'étais famille d'accueil pour les jeunes quand ils sortaient du centre d'accueil.
Ouais.
Je les préparais à l'âge adulte, fait que j'ai fait ça pendant une dizaine d'années.
C'était-tu formateur, ça, travailler dans les centres d'accueil?
Tellement.
Ouais. Puis de voir que ces jeunes-là puissent évoluer un peu. T'sais,
écoute,
il y en a qui étaient là par choix. Il y en a qui l'étaient là, pas vraiment par choix.
Je veux dire, c'est 95% qui sont pas là par choix.
Ouais.
Fait que donc, ils sont pas particulièrement volontaires à se faire aider.
Okay, parce que moi, quand j'étais jeune, bon, les jeunes étaient au Mondioville.
Mm-hmm.
Puis par la suite, je te parle de Beauport, là, par la suite, ils transféraient au centre 5e saison, qui était comme dans le haut du fort, là, collé sur la rue de Lisieux.
C'est là que je travaillais.
C'est là que tu travaillais. Ouais. Fait que tu as travaillé avec une de mes tantes, Ghislaine Lamontagne.
Oui.
J'adore, qui m'a gardé, qui me gardait tout le temps, en fait. Puis Rosaire, qui m'amenait au hockey. Vraiment du bon monde. Puis moi, je me souviens de cet endroit-là, 105e saison, de un, parce qu'elle travaillait là, mais de deux, il y avait une patinoire l'hiver.
Ouais.
Patinoire de surface de décor hockey aussi. Fait qu'on allait là, mais c'est ça. Quand on côtoyait ces gars-là, ben, il y en a qu'eux autres sont nés dans des familles un peu disparates. Puis là, ils étaient envoyés au Mondioville, puis par la suite, ils s'en allaient au centre 5e saison. Puis il y en a d'autres, ben, c'est parce que le juge demandait à ce qu'ils soient là.
Exact. Oui. Exact. Puis bon, mais tu sais, t'avais plusieurs jeunes aussi qui avaient des troubles de comportement, troubles graves de comportement,
ouais.
que les parents savaient trop quoi faire avec. Fait qu'à un moment donné, ils nous envoyaient pour une durée indéterminée. Là, on avait quand même beaucoup de jeunes qui étaient là en arrêt d'agir pour un mois, puis il y en avait qui étaient là pour un an. Mais c'est ça, j'ai fait ça, là, moi, pendant 10 ans. C'était rock'n'roll. C'était vraiment rock'n'roll, par exemple. J'ai adoré ça, mais c'était rock'n'roll.
Tu sais, les salaires sont pas super élevés, mais j'ai l'impression que ton salaire, tu le prenais à partir du moment où tu voyais un individu évoluer au travers de ces mois-là, de ces années-là qui étaient au centre d'accueil 5e saison. Tu sais, moi, c'est complètement différent. Moi, j'étais au collège, je travaille avec des jeunes qui veulent travailler dans le monde de la radio. Puis oui, je suis payé pour être enseignant, puis c'est belle fun parce que j'ai ma paye à chaque semaine. Mais ce qui me donne encore plus à moi, là, c'est quand je les vois évoluer, quand je les vois trouver une job, puis que ça fonctionne bien, puis qu'ils sont là depuis un an, deux ans, trois ans, puis qu'ils trippent, ça, là, ça n'a pas de prix. Là.
Écoute, il y a un de ces gars-là avec qui j'ai travaillé à l'époque, qui est un de mes meilleurs amis maintenant.
Wow!
C'est un jeune, bien évidemment, il est plus jeune que moi. Là. Quand moi, j'étais là, j'avais tout de même 21 ans, il en avait 16.
Ouais.
C'était un bon bonhomme, c'est juste qu'il y avait une maman qui avait de la misère à l'encadrer, puis lui, son frère avait des cornes, tu sais, fait que adolescent, ils ont fait une couple de mauvais coups. Il s'est retrouvé là, mais c'était un bon Jack, c'est un super mon Jack. Puis bon, je l'ai perdu de vue pendant des années. Puis à un moment donné, j'étais à radio, puis je parlais, tu sais, de ces années-là. Puis je disais, j'aimerais ça revoir certains de mes jeunes. Puis ils m'ont contacté.
Wow.
Et puis on devait prendre un café ensemble. Puis finalement, c'est resté un de mes meilleurs amis. Là.
Mais il s'en est souvenu.
Il était à mon mariage, d'ailleurs.
Ouais. Mais il s'est souvenu que tu l'as aidé.
Ah oui. Ouais. Ah oui. Oui, puis j'avais eu des nouvelles aussi. Là. Un des jeunes que j'ai eu en famille d'accueil, il a disparu. Tu sais, j'avais gardé contact un bout avec. Puis à 18 ans, je l'avais perdu dans la nature. Puis à peu près 5-6 ans de ça, il m'a réécrit, il est parti, il habite en Colombie-Britannique, il est parti de la Colombie-Britannique, il est venu passer une semaine chez nous, rencontrer ma famille, c'est un papa maintenant, il a 3 enfants, c'est un homme d'affaires, il a une grosse entreprise là, de...
Ah, tu parles de Danny? C'est Danny?
Non?
OK! Oui, parce que Danny a passé par le même processus, puis maintenant, là, tu sais, il travaille, il y a une compagnie de ménage, compagnie de camionnage, il est dans ce secteur-là aussi.
Ah, ben ça se peut que ce soit un de mes jeunes aussi.
Ouais, il a passé au centre d'accueil 5e saison, puis lui, il est devenu un homme d'affaires. Maintenant, il évolue au niveau anglais, là, mais c'est un maudit bon gars.
Fait que lui, il est venu voir ma famille. Ouais. J'ai plusieurs de mes anciens jeunes qui me récrisent de temps en temps.
Toi qui travailles auprès des familles, ça existe-tu encore, ça, des enfants à un très bas âge qui sont confiés à des centres d'accueil comme le Mondioville? Est-ce que ça existe encore?
Oui, ça existe encore. C'est beaucoup plus rare, je te dirais. Là, t'sais, souvent, ils vont passer par famille d'accueil ou foyer de groupe. Mais il y a maintenant des unités faites exprès pour les enfants très tôt, qui ont des problèmes de comportement importants. C'est souvent lié à des troubles d'attachement. C'est des endroits qui sont vraiment plus ultra spécialisés, mais oui, ça existe encore.
OK. Tu dis des enfants qui ont un problème de trouble d'attachement.
Oui.
Comment je fais pour que mes enfants n'aient pas ce problème-là?
En fait, c'est assez simple pour que tes enfants n'aient pas ce trouble-là. Il s'agit que tu sois présent avec un amour inconditionnel. Tu sais, si je pense, par exemple, ça serait plus facile pour moi de dire qu'est-ce qui peut causer un trouble d'attachement que qu'est-ce qui n'en cause pas, là, ouais. Parce que la plupart des gens... Il y a des styles d'attachement différents.
Parce que ça me stresse de parler de ça, parce que là, moi, ça a pris 30 secondes à faire. Après ça, elle l'a fabriqué pendant 9 mois. Puis là, ça sort, puis ils m'ont pas donné de manuel, là, à savoir comment élever ces enfants-là pour qu'ils soient droits plus tard. T'sais. Puis on y va à tâtons. Puis je vais t'avouer, puis je ne dois pas être le premier à te l'avouer, je t'avoue que des fois, je suis désarmé. J'ai pas d'armes pour telle situation, des tapes à la tête. Puis là, je me dis, attends un peu. Là, parce que là, ça fait 10 fois que je les avertis. Je leur ai donné des conséquences. Je les ai retirés. Puis ils continuent de se taper sur la tête. T'sais. À un moment donné, tu ne veux pas être le pire père de la planète, là. T'sais, mais c'est ça. Le livre là, du parfait parent, pourquoi tu ne l'écris pas?
Écoute, j'en ai 7 bouquins, t'as juste à y lire. J'en ai écrit 7 des bouquins.
Tu sors de l'hôpital, là, puis là, l'infirmière, là, à place de vérifier ta coquille, là, la date et tout ça, là, elle te donne le livre de SOS Nancy. Ben, elle dit, tu commences par ça, bonhomme.
Tu vois, ça, c'est un des plus beaux compliments que j'ai reçus jusqu'à maintenant. Souvent, les gens, quand ils lisent mes bouquins, ils disent ils devraient nous donner ça en sortant de l'hôpital en même temps que le mieux vivre.
Ouais.
Mais tu sais, en même temps, il n'y a pas un enfant qui est pareil. Puis même avec le meilleur manuel mode d'emploi, tu sais, ça prend. Si on voulait faire toutes les figures de cas et toutes les nuances possibles, il y aurait des tombes et des tombes. Mais d'une manière ou d'une autre, il y aurait des fois où on se retrouverait un peu mal pris. Mais bref, revenons au trouble d'attachement. Ce qui peut créer... Puis, tu sais, j'aime pas tant parler de troubles, j'aime mieux parler des blessures d'attachement. Ça peut être aussi banal que, je pense à une jeune fille avec qui j'ai travaillé, elle, entre 0 et 2 ans, elle a subi 11 opérations. Donc, elle était souvent hospitalisée, puis entre 0 et 2 ans, ben tu comprends pas très bien que c'est pour ton bien, tu sais juste que ta mère est là, puis qu'elle te laisse partir avec les méchants monsieur, puis que quand tu vas te réveiller, ça va faire mal. T'sais. Fait qu'elle, elle a développé des problématiques au niveau de l'attachement qui se sont traduites par la suite par un trouble de l'opposition avec provocation. Fait qu'il a fallu qu'on retravaille là-dessus, puis il y a un bout qui a dû être fait aussi avec psychologue, puis même en hypnothérapie.
Là. Ça se guérit, ça, les troubles d'opposition, là? Même pour les adultes?
Oui, oui.
Je pose la question pour un ami. Hein?
Ça peut s'améliorer. Ça peut s'améliorer.
Mais chez l'enfant, ça peut s'améliorer.
Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça peut être ça. Je pense à un autre petit bonhomme avec qui j'ai travaillé qui avait une maman qui avait des troubles de santé mentale.
Ouais.
Donc, tu sais, lui, sa maman, c'était Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Tu sais, autant elle pouvait être douce et gentille, autant des fois, il revenait de l'école puis sa mère était complètement désorganisée puis il comprenait pas ce qui se passe. Fait qu'il avait peur de sa mère. Ça pourrait être un papa ou une maman, parce que ça arrive aussi, qui disparaît dans la nature, tu sais, qui décide qui abandonne carrément son enfant. Il y a des enfants qui s'en sortent bien, qui s'en tirent bien, qui gèrent relativement bien cette blessure d'abandon-là. Puis il y a d'autres enfants chez qui ça cause des problèmes majeurs. Ce qui peut causer aussi des problématiques au niveau de l'attachement, c'est quand on applique une discipline basée sur la peur. Et c'est peut-être là où les gens qui nous écoutent peuvent peut-être plus dire « Oh, attends un peu, je vais faire attention. » Souvent, c'est facile comme parent, d'utiliser la peur pour se faire obéir ici, maintenant. Tu sais, une bonne claque sur la table, un gros « Hey, ça va faire! » Ou, tu sais, ce que je vois qui est commun, le parent, tu sais, mettons, il est au centre d'achat, là, ça va être le temps des fêtes, là, on magasine, puis là, ben, j'ai l'enfant de 3 ans, 4 ans qui fait une crise, puis on lui dit « Bon, c'est beau, moi, garde, je m'en vais, je te laisse ici tout seul. » Fait que je menace mon enfant d'abandon. Ou plus tard, des parents qui, pensant bien faire, là, à un moment donné, sont à bout de nerfs puis disent « Mais regarde, moi, si ça marche pas, tu n'aimes pas ça être ici, mais c'est bonne valeur, tu vas t'en aller en famille d'accueil parce que nous autres, on est à bout. » c'est des menaces d'abandon qui peuvent créer des blessures importantes.
Puis les parents ne réalisent pas ça. Des fois, ils sont tellement désarmés, ils sont tellement désespérés parce que là, ils ont l'impression d'avoir tout essayé, qu'ils vont aller utiliser ce type de menace-là. Puis, ben, comme tu dis, ça peut créer justement le problème de trouble d'abandon.
Oui.
OK.
Blessure d'attachement ou encore, je te dirais, un parent qui n'arrive pas, parce qu'à cause de son passé à lui, n'arrive pas à être suffisamment affectueux avec son enfant. Il fait ce qu'il a à faire, mais des fois, c'est peut-être de façon un peu mécanique. Change le bébé de couche, brasse le bébé pour qu'il s'endorme, il donne le sein, il donne la bouteille, il fait manger, puis tout ça, mais il est comme jamais très, très affectueux, ou quand il essaie d'être affectueux, il y a comme une espèce de distance émotionnelle tout le temps. Fait que c'est des gens, moi, je trouve, qui sont tout le temps dans leur tête, qui n'arrivent pas à avoir du fun avec leurs enfants, qui n'arrivent pas à faire sentir à leurs enfants qu'ils aiment pour vrai, qu'ils sont contents d'être avec eux. Ça, sans faire nécessairement un trouble d'attachement, ça peut créer des styles d'attachement qu'on va dire désorganisé. Donc, ça peut faire un enfant qui est beaucoup plus, admettons, lui-même très distant, plus difficile à approcher. Ça peut faire un enfant aussi qui fait plus de crises que la moyenne. Un enfant qui a du mal à accepter l'amour et que quand on lui donne l'affection, qu'on lui fait des compliments, ben il sabote ça. Donc, ça pourrait donner des problématiques à ce niveau-là.
Je comprends. On a parlé du trouble d'attachement. Tu parles de discipline par la peur. Puis là, il y a des gens plus vieux qui nous écoutent, il y a des gens plus jeunes qui nous écoutent. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, nos grands-parents nous parlaient de leur éducation. Monsieur était dans le bois, madame s'occupait des enfants à la maison. Quand monsieur revenait le dimanche, ben là, tous les torts que les enfants avaient causés pendant la semaine, il y avait une liste, là. Puis là, lui, il est passé sur sa chaise, puis tape ses fesses, tape ses fesses, tape ses fesses. Ça prenait une mère aimante en tabarouette pour qu'il n'y ait pas de trouble d'attachement, là.
Bien, effectivement, ou encore un père qui, en dehors des moments où il applique la discipline, puis dans le temps, c'était très violent, là, montre quand même à ses enfants qui sont importants pour lui. Tu sais, moi, je voyage quand même pas mal, puis je te dirais que dans d'autres pays, les corrections physiques sont encore là. Et j'ai des enfants avec qui j'en discute, puis ils me disent, mais oui, mais mon père, il m'aime. Même s'il me frappe, il m'aime. Parce que il fait ça parce qu'il m'aime, justement parce qu'il m'aime, mais il n'aime pas ça me frapper.
OK, mais là, toi, il faut que tu enlèves tes œillères de...
Hey, c'est dur. T'sais, parce que tu comprends que je suis contre. Je suis même contre les punitions.
Moi aussi, tu sais, moi, je suis contre ça, frapper son enfant. Mais par contre, on essaie tout de faire du mieux qu'on peut. Mais des fois, lever le ton, je vais t'avouer que ça m'est déjà arrivé parce que je me retrouve désarmé. Je dis, tu sais, là, à un moment donné, là, hey, ça va faire, là, arrêtez, là.
Ouais, puis tu sais, faut tout le temps nuancer. Hein. Lever le ton puis crier, pour moi, c'est pas la même affaire.
C'est vrai.
Tu sais, lever le ton avec... Tu sais, on peut lever le ton avec... j'appelle ça, mettons, beaucoup de fermeté, mais qu'il y a derrière, on entend encore la chaleur, là, tu sais.
Okay.
Hey, ça va faire, les boys. Je t'écœurerai, là. Ça fait 5 fois que je vous dis la même chose.
Ouais.
Fait que là, ça arrête. Et que, ben, tu sais, ton kid, il a joué avec toi avant, puis il va avoir des câlins à l'heure du coucher, c'est autre chose. Mais quand je vois un parent qui, justement, parce qu'il est désarmé, hurle, mais que c'est rempli d'agressivité et de colère, et que, tu sais, des fois, les enfants vont arrêter de faire ce qu'ils font, pas parce qu'ils ont compris quoi que ce soit, parce qu'ils sont sidérés. Ils figent, là. C'est comme un chevreuil que tu viens d'y mettre le spotlight d'en face. Là, fait qu'il fige. Mais là, le parent, ben, il pense faussement. Il dit, bon, ben, ça marche. Sauf que c'est un piège à ours.
Ben oui.
Parce que plus tu cries pour que tes enfants cessent leur comportement, plus ce qui s'installe comme contrat relationnel entre toi et tes enfants, c'est tant que mon père hurle pas, il n'y a pas de trouble, on peut continuer, on peut niaiser.
Je comprends.
Fait que, plus ça va, plus il va attendre. T'sais, pour eux autres, là, le signal d'alarme pour dire « Oh, si je continue, je suis dans le trouble », c'est quand mon père hurle.
Ouais. Des fois, c'est capoté. Parce que moi, chez nous, j'ai une maison sans crier. Là. Quand ils se parlent l'un et l'autre, puis ils chicanent, ils n'ont pas le droit de se crier après. Ils n'ont pas le droit de me crier après. Ils n'ont pas le droit de crier après ma blonde. J'ai pas le droit de leur crier après. Mais quand je suis tanné, puis là, je lève le ton, ils sont « Ouais, ces enfants-là, ils ressemblent à l'humain. Ils sont intelligents. » Puis là,
ils sont beaux aussi.
Ouais, c'est ça, mais exact. Ils ressemblent à eux-mêmes. Mais tu sais, j'ai regardé, puis là, je lève le ton. Mais papa, hein, on n'a pas le droit de régler les conflits là, en levant le ton. Je dis là, je lève pas le ton, c'est juste que je suis choqué. Là. Des fois, ils viennent te chercher, là, SOS. Là. Tu l'as vécu, toi aussi. Là, tu dis,
bien sûr.
Puis ils pensent à des affaires, des fois, que nous autres, on était un peu plus lents là, quand ouais. on était jeunes. Là, à cette heure, ils sont très, très, très rapides. Ils ben ont oui. plus de réparties qu'on en avait.
Génération techno.
Nos relations sont différentes. T'sais. Moi, mes parents, je n'avais pas cette relation-là, la même relation que j'ai avec mes enfants. T'sais. Nous autres, on a une relation qui est... On passe notre temps à s'achaler, à s'agacer, si ça. Chez nous, c'était pas nécessairement comme ça. Mais tu sais, quand il t'arrive à te faire des répliques, t'sais, toi, tu mets des règles en place, maison sans crier, puis là, t'hausses le ton un peu, puis il dit, ben là, ici, c'est une maison sans crier, monsieur. C'est papa.
Ben,
puis arrête de faire comme ta mère.
Mais une des choses, moi, que j'avais fait avec ma fille, c'est que dans un moment où ça va bien, tu sais, pas quand tu viens de lever le ton, puis tout ça, ou que t'es en colère, ou que les enfants sont tout croches, là, mais d'un moment où ça va bien, moi, j'avais expliqué un peu, j'avais fait un petit cours de hiérarchie 101 à ma fille vers l'âge de 4 ans.
Ouais.
Il expliquait que c'est bien plate, ma choupinette, là, mais moi, ma job, c'est de t'éduquer. Fait que moi, c'est normal que moi, je mette certaines règles, c'est normal que je te dise non, et c'est normal que je fasse preuve de fermeté. Et moi, j'ai le droit de te dire, viens ici tout de suite. Alors que toi, t'as pas le droit de faire l'inverse.
Okay. Elle t'a pas dit, ouais, mais pourquoi?
Bien sûr qu'elle m'a dit pourquoi. C'est sûr, une folle d'une poche. Fait que c'est sûr, tu sais, qu'elle m'a demandé pourquoi. Mais je disais, bien, parce que c'est mon travail. Moi, là, comme maman, j'ai un travail. Et un jour, tu vas avoir un patron. Puis, bien, moi, mon patron, ben, tu sais, à l'époque, quand tu étais petit, je travaillais en CLSC, j'en avais un patron. Ouais. Et je disais, bien, moi, là, mon patron, là, quand il me dit, bien, Nancy, ce que j'exige, c'est telle chose, moi, que je sois d'accord ou pas, faut que je le fasse. Puis, j'ai pas le droit de dire, me repas. Tu sais, j'ai pas le droit de dire ça, tu sais, fait que. Il y a comme... Fait que là, j'ai essayé d'expliquer le principe de hiérarchie. Est-ce qu'elle a compris? Je pense pas. Ouais. On l'a ramené à plusieurs reprises, mais régulièrement, par après, tu sais, des fois, elle pouvait me dire, « Ben là, pourquoi, toi, t'as le droit de boire, par exemple, du café, puis pas moi? » Ben parce que je suis la maman. Puis parce que, ben écoute, les mamans, ben pour continuer à éduquer leurs enfants sans trop leur crier par la tête, ça prend du café.
Exact.
Le matin.
Oui, OK. Hey, j'ai pensé à toi l'autre jour parce que je me suis rappelé un souvenir que j'avais. Mon gars maintenant, mon plus jeune a 6 ans. Puis j'ai cette impression-là qu'il vit à peu près la même chose que moi je vivais à l'époque à son âge et que j'avais l'impression que les gens autour de moi étaient tous des personnages. Oui, j'avais l'impression que les gens autour de moi étaient tous des personnages, que les gens n'existaient que quand ils étaient devant moi. Okay. J'ai vu, il y a de ça quelques années, un documentaire sur les chimpanzés, puis ils ont fait des études sur les bébés singes, puis les bébés singes, quand ils avaient peur, ils se cachaient les yeux. Ce qui fait en sorte que les bébés singes ont l'impression que quand ils voient pas, les choses n'existent pas. Puis j'ai fait une corrélation avec ça. Écoute, ça n'a rien de scientifique, là. Mais mon gars m'a demandé, « Papa, tu sais, quand je suis pas là, là tu n'es pas là non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? » Ben, il dit, « Quand je suis pas avec toi, tu n'es pas là. » Ben, je dis, « Non, Isaac, je suis pas là, je travaille. » Ben, il dit, « Non, tu travailles, je te vois pas. »
OK. Il y a de la misère à conceptualiser que tu as une vie.
Exact. Ouais. Mais ça te faisait pas ça, toi?
Non, moi, j'ai pas vécu ça, mais ça fait du sens, par contre.
Fait que là, je me suis rendu compte que mon gars a l'impression qu'on est là pour lui.
Oui. Mais un peu comme dans un film. Là.
Un c'est peu bien, comme dans un
c'est
film.
C'est ça, je suis le personnage principal. Puis ben, quand dans une scène, certains personnages secondaires sont pas là, ben ils sont quelque part dans la stratosphère.
Écoute, après y avoir expliqué ça, j'ai réussi à le garder silencieux pendant 5 minutes.
Hey.
Il réfléchissait parce que là, j'ai dit, Isaac, quand toi, tu n'es pas là, papa, il fait ses affaires aussi. Il va travailler, il va gagner de l'argent, il paye ses affaires. Après ça, ben papa, il t'appelle le soir. Tu sais, j'apparais pas juste dans ta vie quand j'appelle le soir. Je suis là tout le temps, je pense tout le temps à toi. Puis j'ai l'impression qu'il a comme réalisé quelque chose, mais ça m'avait fait ça, moi aussi.
Oui, bien, en fait, probablement que... Voici mon hypothèse. Mon hypothèse est que probablement que tous les enfants vivent ça. Jeune, tu sais, ben, parce que c'est un processus normal, l'impression que...
La Terre ben, tourne autour de toi.
Oui, c'est ouais. ça, tu sais, puis que ben, si ma mère, je la vois pas, ben, elle n'est pas en train de faire quelque chose. Fait, la difficulté à conceptualiser la vie des parents en dehors, généralement, ça va disparaître vers l'âge de 4-5 ans.
Okay.
Fait que probablement que ton gars a juste comme... Il est rendu juste assez vieux pour réaliser que... Oui, mais j'ai toujours eu cette impression-là, mais c'est probablement pas ça.
Ouais. Mais ça a fait quelque chose de bizarre parce que les jours suivants, c'est lui qui m'appelait son Messenger pour me souhaiter bonne soirée puis bonne nuit.
Ah, c'est bon.
Alors qu'avant, tu sais, ben, il y a 6 ans, fait que c'était à moi de tout le temps courir après, après la communication parce qu'ils ne restent pas avec moi la semaine. Moi, ils sont avec moi du vendredi au lundi soir. Mm. Fait que, tu sais, je les appelle quand je ne suis pas avec eux. Mais là, il m'a comme appelé. Il a comme réalisé qu'on existait en dehors de sa propre existence. J'ai trouvé ça capoté parce que c'est moi aussi, je me souviens de ce moment-là. Ça n'avait pas été un choc autant pour moi, là, parce que je me suis rendu compte que les autres aussi avaient des vies. Mais lui, je me suis rendu compte qu'il a pogné 2 minutes. Là.
Mais 7 ans, on appelle ça l'âge de raison. Hein?
L'âge de raison?
Ouais, l'âge de raison. Normalement, là, dans le développement du cerveau, ce qui se passe vers l'âge de 7 ans, c'est justement la capacité de se mettre à la place de l'autre, de s'imaginer une vie différente de la sienne, de chercher justement à se projeter sur l'autre. Donc, s'imaginer, bon, mais si je suis papa, j'ai déjà vu où est-ce qu'il travaille. Donc, aujourd'hui, il doit être en train de faire telle chose, telle chose, telle chose. Quand, vers 7 ans, 8 ans, ils écoutent des films, là, ils sont capables, tout à coup, de se mettre à la place de l'enfant. Moi, je me souviens, ma fille, vers ces âges-là, on écoutait souvent des films, tout ça. Puis, à un moment donné, c'est l'histoire d'un enfant que ses parents sont morts, puis qui est orphelin. Écoute, ma fille a tellement pleuré. Ouais. Là, et là, tout à coup, elle s'imaginait être cet enfant-là. Alors que peut-être un an avant, elle aurait écouté le film, puis elle aurait fait « Ah, tu sais, l'histoire, c'est blablabla », mais elle ne se serait pas projetée comme ça.
Fait que tu dis, c'est ça, c'est 7, 8, 9 ans dans ce coin-là?
Oui, 7, 8 ans.
OK, parce que 7, tu vois, Joshua, il a déclenché, là, peut-être il y a 9 ans aujourd'hui, fait qu'il a déclenché, là, 2 ans, il écoutait, je pense, le Roi Lion. Là.
Ouais.
À un moment donné, le Roi Lion, il perd son père, là. Hey boy, c'était la crise. Là.
Ouais.
Ouais.
Fait que tu sais, il peut écouter le Roi Lion à 3 ans, puis ça ne l'atteindra pas. Puis c'est ça, vers 7, 8 ans, 9 ans, là c'est comme, hey, ben oui, ça pourrait m'arriver. Puis comment je me sentirais? Fait que c'est vraiment.
C'est capoté quand on y pense à quel point ça peut être complexe, là, tu sais. Puis pourtant, nos enfants, on essaie de tout leur donner, puis on a l'impression qu'ils manquent de rien, tu sais. Puis on les surveille, puis on essaie de les aider. Puis là, de me rendre compte que mon gars, il vit à peu près la même affaire que je vivais à peu près à son âge. J'ai l'impression que moi, c'était plus vers 5 ans, là, ça m'a fait réaliser ben, des affaires. Mais pourtant, pour lui, ça a été positif parce que lui, il a commencé à comprendre qu'il pouvait m'appeler lui-même.
Ben c'est ça. Puis de se dire, ben mon père a une vie, puis qu'est-ce qu'il fait? Et ça peut venir avec la culpabilité. Tu vois, à peu près dans les mêmes âges, on part en Floride à Disney avec les 3 enfants. Moi, mon chum, les 3 enfants. Puis à un moment donné, on est dans file à Disney. Et le plus jeune à mon chum, à ce moment-là, il a ça à peu près 8 ans. Ils font en larmes. Et là, il se dit, il commence par nous dire « Je m'ennuie de maman ». OK, mais tu sais, pourquoi fondre en larmes? Et en discutant un peu, on réalise que c'est parce qu'il se sent coupable. Il dit, c'est pas juste que moi, je sois ici puis que maman soit à la maison toute seule. Et il se projetait, il s'imaginait, tu sais, être lui à la maison tout seul pendant que d'autres s'amusent. Puis il dit, moi, si, tu sais, si c'était moi, je trouverais ça injuste. Fait que il voulait même plus finir la journée, là. C'était comme il aurait voulu s'en retourner à l'hôtel puis arrêter d'avoir du fun parce qu'il se sentait mal d'avoir du fun pendant que sa mère en avait pas. Fait que, tu sais, pour moi qui adore les neurosciences, je me disais, OK, tu sais, dans son évolution de cerveau, il est rendu là.
Ouais.
Il est rendu à cette capacité d'empathie-là. C'est là où les enfants commencent à avoir une réelle empathie, là, tu sais, de vraiment la capacité à se projeter. Puis des fois, c'est ça. Ça vient avec de la culpabilité. Il y a une autre situation aussi où le petit fait une carte à son père, un petit bonhomme qui fait une carte à son père pour la fête des pères, et il dit à son père, écoute, il dit, j'ai fait 2 cartes, t'sais, je n'ai fait une pour le chum de ma mère, puis je n'ai fait une à toi, mais tu sais, finalement, j'ai donné la plus belle au chum de ma mère, parce que c'est quasiment plus lui, hein, mon père. Je passe même plus... Ce papa-là avait son enfant juste une fin de semaine sur 2.
Ouais.
Fait que c'est quasiment plus lui, mon père. Tu sais, je suis bien plus souvent avec lui. Fait que j'ai donné la plus belle.
Hey.
Fait que là, le petit bonhomme, tu sais, le père vient tout croche, vient les larmes aux yeux. Et là, ben, tu sais, sa belle-mère, tu sais, le chicane un peu. Ben, elle dit, ben voyons donc, qu'est-ce que tu as pensé de dire ça? T'sais? Tu viens de faire de la peine à ton père, là, tu sais, tu réalises-tu? Et le petit bonhomme avait ça à peu près 9 ans. Et lui, il réalise, là, tu sais, tout à coup, il se met à la place de son père. Puis là, ben, tu sais, la belle-mère en met un peu. Fait que, il se met à la place de son père. Écoute, il a été bouleversé, je pense, pendant une semaine. Là, ouais, la maman m'a appelé en disant, écoute, je ne sais plus quoi faire avec. Là, il braille, pauvre il braille, puis il s'en veut, puis il s'en veut. Ouais. On va aller qu'on recampe les affaires, mais c'est comme si l'empathie venait de pousser à l'intérieur
ouais. de lui. Oui, tu sais, une situation totalement différente avec la fille de ma blonde. Moi, je monte l'abri tempo. Je le monte sur 2 jours parce que j'ai d'autres choses à faire au travers. Tu sais, les games de hockey, puis il fallait que je travaille un peu pour ici. Fait que je monte la structure la première journée, je suis seul. Là. Fait que je fais tout seul, c'est un peu plus long, tu sais. Puis la deuxième journée, je mets la toile. Puis là, le dimanche, il y a des amis qui sont à la maison, puis la fille de ma blonde dit « Ouais, Yannick, en tout cas, toi, ça t'a pris 2 jours monter l'abri tempo. Hein? Moi, mon père, ça prend à peu près 1 heure monter l'abri tempo. » Puis là, moi, je dis, ben oui, ben, tu sais, ton père, il travaille très vite, ton père, tu sais, puis j'embarque pas dans ce challenge-là, parce que je sais que valoriser son père quand t'es une jeune fille ou ben un jeune garçon, c'est juste normal. Puis mon chum m'a dit, après le souper, Yann, pourquoi qu'elle te fait ça? Elle essaie de te confronter. J'ai dit, mais pourquoi tu penses que c'est dirigé vers moi? C'est elle et son père, c'est pas moi.
Ah, j'aime ça. J'adore ça.
C'est pas,
c'était pas de toi qu'elle parlait.
Moi, ça m'atteint pas. Puis je le sais que monter un abri tempo tout seul, en 45 minutes, 60 minutes, c'est impossible. Là, moi, c'était un abri tempo double. Mais elle, elle avait besoin de le dire ouais. parce qu'elle valorise son père, parce que je passe énormément de temps avec elle.
Ben oui.
Fait que tu sais, il y a des choses que je fais peut-être de pire ou peut-être de mieux que son père, mais elle, son père, va toujours être son père et
ouais, soit Nancy. Oui, puis un enfant ne peut pas s'empêcher de comparer.
Ben oui.
T'sais, son père puis son beau-père, c'est impossible de ne pas comparer. Puis, ben, forcément, il y a une espèce de conflit de loyauté aussi. T'sais, moi, je me souviens, le plus jeune à mon chum m'avait dit, tu sais, il dit, Nancy, il dit, c'est pas parce que je t'aime pas, mais j'aime bien plus ma mère. Je dis, mais petit loup, c'est bien normal que t'aimes plus ta mère, là, ouais. Je veux pas, j'y ai pas dit, mais j'avais juste envie de dire, c'est pas parce que je t'aime pas, mais j'aime bien plus ma fille. Je suis pas sûre que ce sera encore vrai 8 ans plus tard, parce que, tu sais, dans le fond, maintenant, je l'ai comme vraiment adopté, là, mais tu sais, à l'époque, j'étais plus attachée à ma fille qu'à lui, mais j'y ai pas dit. Mais tu sais, puis plaisait. Mais tu sais, puis il m'avait déjà nommé. Il dit des fois, il dit, je trouve ça. Parce que sa mère a toujours été très ouverte, mais elle disait, il dit des fois, il dit, je me trouve pas fin de t'aimer.
Hein, mais quand même, il est donc bien intelligent.
Ah oui, écoute, c'est un enfant, c'est un cœur. Écoute, mais il est rendu à 16 ans, puis tu sais, ça a tout le temps été un enfant qui s'exprime super bien. Puis rendu à 16 ans, on a des discussions tellement le fun. Là. Moi, okay. Écoute, j'ai pogné le jackpot.
Mais il était intelligent pour se rendre compte de ça.
Oui, capable de le nommer.
Mais c'est ça. Tu sais, les gens, les beaux-pères ou les belles-mères ont tendance à prendre ça personnel, tu sais, quand les enfants comparent, mais c'est juste normal. Puis vous autres, si vous le savez que ce que vous faites là, c'est bien, quand même que l'enfant dirait n'importe quoi pour valoriser son père ou sa mère qui est à la maison, c'est juste parce qu'il s'en ennuie puis il est en train dans sa tête de faire des comparaisons.
Oui, oui,
puis c'est le ça. Best, là, c'est que son père et sa mère, ce soit les deux personnes les plus importantes, puis que vous autres, en tant que beau-père, belle-mère, ben que vous soyez importants, mais que vous êtes deuxième.
Oui, puis on est des beaux compléments. Ben, on est des beaux compléments avec un rôle complètement différent, mais effectivement, puis tu sais, un enfant peut même avoir l'impression, même si ses parents sont bien corrects, l'enfant pourrait avoir l'impression qu'il n'a pas le droit d'aimer son beau-parent, qu'il n'a pas le droit de le trouver beau, fin ou meilleur que son parent sur quelque chose, par sensibilité, surtout là, encore justement là, vers ces âges-là, là, 7, 8, 9, 10 ans, là, l'espèce de conflit de loyauté est souvent beaucoup plus fort. Là. C'est vraiment l'impression que si j'aime mon autre si j'aime mon beau-parent ou mon beau-père, ma belle-mère, c'est un peu comme si j'aimais moins mon parent. C'est un peu comme si je trahissais mon parent. Fait que, tu sais, c'est hyper important que comme beaux-parents, justement, ce que tu as fait de ne pas réagir, de dire, hey boy, il est rapide ton père, il va falloir qu'il me donne un cours, puis que tu le prennes pas personnel, puis que, tu sais, qu'on valide non-stop, tu sais, de l'amour inconditionnel de son parent, tu sais. Puis bon, moi, j'ai un ado de 16 ans, ben, tu sais, ça chiale contre ses parents, ça, des fois, tu sais. Ouais. Fait que, puis moi, ben, tu sais, je suis la confidente, puis ça va rester pour moi super important de dire, rappelle-toi toujours à quel point tu es chanceux d'avoir des parents extraordinaires comme tu as. Il n'est pas question que je me mette entre les deux, tu sais, puis que j'essaye de faire alliance contre son père ou sa mère, là.
Parce que ça va revenir contre toi d'une manière. malheur
ben oui,
de l'autre.
Ben oui, ben oui. Puis de toute façon, je l'aime cet enfant-là, fait que je veux qu'il aille bien. Puis si je veux qu'il aille bien, je veux qu'il aime ses deux parents.
Ouais.
Puis je veux qu'il se sente aimé des deux. Et c'est la même chose, je ferais l'inverse, tu sais. Ça prend beaucoup de sagesse quand on est parent. Je dirais peut-être surtout quand on est une maman. Je ne sais pas pour les gars comment ça se passe, là, mais moi, je sais que ça m'a demandé beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse d'accepter que ma fille aime une autre femme. Okay. Sa belle-mère.
C'est drôle, là, parce que moi, en tant que gars, là, tout ce que je voulais, c'était que le chum de la mère de mes gars respecte mes enfants. Mm. S'il veut les aimer, il a le droit de les aimer. Mes enfants ont le droit de l'aimer. Mais d'abord et avant tout, ce qui est important, c'est qu'il respecte mes enfants et que mes enfants soient en sécurité quand ils, quand ils sont avec. Puis ça, c'est bizarre, hein? C'est peut-être le fait que je suis un peu macho dans l'âme, mais ça me faisait du bien de savoir qu'il y avait un gars dans la maison.
OK.
Parce que, ouais, tu sais, peu importe ce qui arrive, là, il y a un gars qui est dans la maison, puis il y a un feu, il va sortir mes enfants, puis ouais, il va s'occuper de la mère de mes gars. Ça me rassurait.
Principe de sécurité, ouais.
Mais tu sais, nous autres, on a une belle relation, ben là, oui, du début jusqu'à la fin. La séparation a super bien été. Avec les enfants, ça a bien été aussi. Mais ça, là, c'est important pour moi, c'est que à partir du moment où il y a un gars qui rentre dans la maison, qui respecte mes enfants, que mes enfants le respectent. S'il y a de l'amour, moi, je force pas l'amour, mais s'il y a de l'amour, c'est bien parfait. Mais ça me rassurait de savoir qu'il y avait un homme dans la maison.
Ben, tu sais, tu vois, moi, ça me rassurait aussi qu'il y ait une femme dans la maison parce que ma fille était jeune quand sa belle-mère est arrivée dans sa vie. Puis, tu sais, ben moi, son père pouvait être un peu négligent des fois, ses bars, tu sais, ses heures de coucher sur la douche ou des affaires comme ça.
Fait que je me disais,
oui, c'est ça. Fait que je me disais, ben, tu sais, elle va comme... Puis elle était très, très rigoureuse, ouais, là, tu sais. Fait que, ben, elle va s'assurer que ma fille est douchée, lavée, puis qu'elle se couche à une heure qui se peut. Okay. Puis elle va peut-être. Fait que ça me rassurait, mais en même temps, je trouvais ça difficile. Puis je me souviens que ça a fallu que je fasse appel à ma maturité, là, que ouais, j'enclenche ma maturité pour être capable de composer avec. Tu sais, par exemple, ma fille, à un moment donné, elle revient de chez son père, elle a des petites brassières. Écoute, il a fallu que je ravale fort en tabarnouche. Parce qu'elle a dit, ben oui, elle a dit, bon, elle a hérité des petites brassières de sa grande sœur, de la fille de sa belle-mère. Puis elle a dit, ouais, elle a dit, tu sais, ma belle-mère a dit que j'étais due pour porter des soutiens-gorge. Puis là, je me disais, de quoi qu'elle se mêle, de quoi qu'elle se mêle. Elle fallait, là, que, ouf, ouais, ou tu sais.
Mais elle voyait pas ça.
Ben non, elle voyait pas ça.
Les gens, ils posent pas leurs pensées comme ça, pour la plupart, du moins, là.
Mais tu sais, puis c'était pas pour mal faire. Hein. Ben c'était non, comme, ben elle a traité, elle dans sa tête, et elle, puis encore aujourd'hui, elle avait trois enfants. Là, les deux siennes, puis la mienne, ouais, c'est ses trois enfants. Puis maintenant, j'ai tendance aussi à voir les enfants de mon chum comme j'ai trois enfants, moi. Ouais. Je parle de mon ado. C'est pas moi, pas toutes. Je suis juste sa belle-mère, mais tu sais, fait qu'elle, elle le voyait comme ça. Fait qu'elle, c'était comme, elle gère les trois filles comme si c'était les miennes.
Ouais.
Mais je me souviens que j'avais trouvé ça ah, oui, difficile, surtout qu'à l'époque, j'étais célibataire. Là. Fait ouais, que, tu sais, c'était comme si...
J'ai eu cette discussion-là avec un de mes chums, tu sais, puis là, dans ce cas-ci, je pense que le gars qui a fait ça est un peu particulier, là, mais regarde, je suis pas psychologue, tu sauras me le dire, mais c'est un couple qui est plus ensemble. Puis lui, ben il y a eu un petit gars. Et son petit gars, il y a 2 ans, et là, son petit gars arrive à la maison, puis il dit « Papa... » En fait, la mère des gars a comme expliqué ce qui s'est passé. Là. Et elle a dit, exemple, Steve a acheté les premiers patins à Tom. Et là, mon chum qui me dit, là, Yann, c'est parce que je suis le point de faire un scandale, là. Tu sais, quelque chose d'important.
C'est pas mal l'équivalent du premier soutien-gorge, je vais dire. Les premiers patins.
C'est ça.
Non, c'est pas mal l'équivalent.
Il dit, là, tu sais, les premiers patins, c'est moi le père. C'est moi qui est supposé les acheter. Je dis, ben, tu y as-tu pensé les acheter? Ben oui, là. Tu sais, je voulais lui donner ça comme cadeau pour Noël. Il a pas passé pendant tout, là. Mais il dit, je voulais lui donner ça comme cadeau pour Noël. Je dis, ben, OK, tu sais quoi, lui, il voulait juste être gentil, là.
Ben oui.
Tu sais, sois content qu'un individu s'occupe de ton gars puis qu'il veut être gentil avec. Puis parle-en avec sa mère, comme quoi, tu sais, quand il y a des cadeaux comme ça qui sont significatifs pour toi, t'aimerais ça être le premier donné.
Ben oui.
Fait que dépêche-toi pour le vélo.
t'as bien fait ta job, mais en même temps, même si on le sait avec notre tête, ah, des ouais, fois, au niveau du cœur, ça passe de travers en tabarnouche.
Ben là, c'est sûr.
Je trouvais ça dur aussi, tu sais, en vieillissant, savoir que ma fille pouvait confier des choses. Puis, tu sais, maintenant, j'ai un super bon lien avec la belle-mère de ma fille, mais ça n'a pas toujours été le cas. Puis, tu sais, de savoir, admettons, que ma fille pouvait confier des choses à sa belle-mère, qu'elle me confiais pas nécessairement, tu sais. Puis là, je me retrouve dans la situation inverse. Je sais que mon beau-fils me confie des choses, puis câline que ça doit pas être évident pour sa maman, des fois, tu sais, de dire... écoute, puis on a beau être raisonnable, on a beau savoir que c'est une bonne affaire, au niveau intellectuel, de dire « Hey, c'est cool, tu sais, mon enfant a deux femmes, deux hommes dans sa vie, c'est quatre adultes significatifs, il y a plus de monde qui l'aime, c'est génial, là, mais il y a des affaires qu'on peut être un peu piqué comme parent, de dire « ben moi, tu sais, je sais pas, là, moi, ma fille, son premier French, là, j'aurais voulu savoir, j'aurais voulu que ce soit moi, quelconque, pas sa belle-mère. » Tu sais,
je suis pas encore rendu là, ça va m'arracher le cœur. Quoique, tu vois, ils me disent des affaires qu'ils disent pas à leur mère. Ouais. Tu sais, concernant leur premier amour, ça, c'est bizarre, hein? Tu sais, mes gars me disent qu'ils ont des blondes. Puis quand je suis en présence de leur mère, là, jamais que j'ai le droit de parler de leur blonde.
OK.
Là. C'est weird, hein?
Oui, mais c'est assez commun. C'est assez commun.
Mais ça me déçoit un peu. J'aurais préféré qu'il y en ait plusieurs en même temps. Mais non.
Oui, c'est ça. Parce qu'ils sentent qu'avec toi, c'est cool d'avoir une blonde, tandis que peut-être avec les mères, ça l'est moins.
Exact.
Mais aussi, c'est vraiment... Des fois, les mères, on est un peu trop intrusives.
Ah ouais.
Pour ces affaires-là. Fait que, tu sais... Peut-être tes gars, mais en tout cas, peut-être dans d'autres situations. Tu sais, des fois, les mères, si notre jeune, notre petit gars, notre petite fille nous dit « J'ai un chum, j'ai une blonde. »« Ah ouais, puis comment qu'elle s'appelle? »« Puis ta petite blonde. » Tu sais, on en fait comme trop un plat, puis l'enfant est peut-être pas prêt à ça. Fait qu'ils vont en parler à la personne qui sait qui va peut-être pas exagérer sa situation, puis le questionner, puis tu sais, il se sentira pas comme à Gestapo. Là. Fait que...
Voilà. On s'amuse ce soir. On est avec SOS Nancy sur les ondes de Boulevard 101. Merci beaucoup d'être là. Après la pause, on continue d'être avec SOS Nancy. Je vous rappelle qu'elle est spécialiste en coaching familial.
Yeah.
T'offres des services avec les gens qui travaillent dans ton équipe pour aller dans les familles pour aider. On peut aller s'informer sur ton site Internet.
Yes, sosnancy.com. On offre aussi tout plein de formations web sur divers sujets, là, l'opposition, l'anxiété, les devoirs et leçons. On en a 35 des formations web.
T'as-tu des conférences bientôt?
Avant les fêtes, non. Ça va aller après les fêtes.
C'est toujours annoncé sur ton site web?
Yes. Puis aussi, on a une école de coaching familial. Donc, les intervenants qui veulent devenir coach ou appliquer l'approche du coaching familial dans leur travail, on a une prochaine session là, qui s'en vient en janvier.
Cool! On fait une pause et on revient.
Marceau, le soir. Metallica, à Montréal, sur scène centrale, au Stade olympique de Montréal. Metallica. La tournée mondiale M72. Deux soirées, deux spectacles différents. Un week-end de chansons uniques. Le vendredi 11 août, avec invités spéciaux Pantera et Mammoth WVH. Le dimanche 13 août, avec invités spéciaux Five Finger Death Punch et Ice Nine Kills. Billets deux jours en vente ce vendredi 2 décembre à 10h sur evenco.ca. Deux soirs de rock. Chansons jouées une seule et unique fois. Metallica sur scène centrale. Présenté par Black and American Whiskey et Liquid Death Mountain Water. Tuez votre soif.
Ce week-end, au Centre de glace Intact Assurance, venez voir Laurent Dubreuil et l'équipe canadienne affronter les patineurs de vitesse les plus rapides au monde au championnat des quatre continents. Billets longuepiste.ca.
Le 31 décembre, viens défoncer l'année au Phoenix. Quatre ambiances sous un même toit. Menu gastronomique, spectacle du groupe Les Mecs au Phoenix, DJ Def Leppin au Midnight Blue et plusieurs surprises. Le 31 décembre, ça se passe au complexe du Phoenix. Réserve tôt, phoenixduparvis.com.
Front Performance, votre nouveau concessionnaire CF Moto à Bois-Châtel et Saint-Raymond. Obtenez le côte-à-côte U-Force 600 Classic 2022 à un prix imbattable de 13 999 $. Plus un treuil de 2500 livres gratuit et la garantie 5 ans limitée offerte jusqu'au 31 décembre. Financement disponible. Frontperformance.ca.
Vivez en toute quiétude, car avec l'Autorité des marchés financiers, vos dépôts d'argent sont protégés. Pour en savoir plus sur cette protection, visitez le site web de l'Autorité des marchés financiers.
Chez Cora, pendant le Festival des œufs bénédictines, si vous avez une faim de loup, il y a le steak avec œuf poché et sauce hollandaise fromagée épicée. Si vous avez une faim de loup, mais de loup qui ne mange pas de viande, il y a le Bénédictine Beyond Meat. Et si vous avez une faim de loup qui a la dent sucrée, il y a le Bénédictine servi sur une gaufre au kale. En tout, 5 nouveautés pour combler votre faim de loup.
Chez Cora, moi je déjeune avec le Festival des œufs bénédictines. Jusqu'au 1er janvier seulement.
Cette année à Noël, pour tout trouver, être bien conseillé, sans chichi et à bon prix. Noël Amel pour le plus grand choix de sapins et de décorations Noël au Canada. Noël Amel, vous serez emballé. 6029 Boulevard Amel.
Le Provigo fermera ses portes dans 10 minutes.
Qu'est-ce qui nous manque là, pour la réception de demain?
Je sais pas, j'ai perdu la liste.
Jusqu'au 7 décembre, les clémentines sont à 3,77 $ pour une boîte de 5 livres. En passant, j'ai retrouvé votre liste.
Pour les pros de dernière minute, il y a Provigo.
Le Corsaire Microbrasserie, c'est la place pour vos parties des fêtes. Avec la bonne bière, de la bonne bouffe et une ambiance incroyable. Autant au pub de la Traverse qu'au salon de dégustation. Réservez maintenant Le Corsaire. 418-380-2505. 418-380-2505.
102, la radio rock de la vieille capitale. Ça, c'est... BLVD.
Boulevard. 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
102.1.
On est avec SOS Nancy ce soir. J'ai l'impression que vous vous amusez. On a beaucoup ri dans le premier segment. Et là, dans le deuxième segment, nudité. On parle de la nudité, on va parler aussi du trouble de l'opposition. Je veux revenir un peu là-dessus. La nudité, quand on est père ou mère de famille, on dirait qu'on a tendance à faire abstraction du fait que c'est nos enfants. Bon, on se dit, ben, on est tout nu. On sort de notre salle, on sort de la chambre, on s'en va à la salle de bain, on est tout nu. Moi, de ce côté-là, je suis un peu plus... je fais un peu plus attention, là. Plus ils vieillissent, plus je fais attention, exact. Bien entendu. Quand on fait l'amour avec leur mère, ou quand on fait... Ben là, c'est plus mon cas, là. Mais quand on fait l'amour avec notre blonde, ça arrête
ouais,
beau,
c'est
là. Quand on fait l'amour avec notre blonde, on veut pas nécessairement que nos enfants nous entendent.
Non.
Toi, en tant qu'éducatrice spécialisée, pour ce qui est de la nudité, autant d'un bord comme de l'autre, que tu sois père ou beau-père, tu vois ça de quelle façon? Moi, c'est souvent la serviette là, qui me sort du trouble. Là. Mais pour mes gars, la nudité, eux autres, ne sont pas encore gênés. Pour les filles de ma blonde, eux autres, ils ont été très, très, très habitués, jeunes, là, à faire attention.
Okay.
Mais qu'en est-il de la nudité pour les enfants?
En fait, il y a pas de règles qui devraient nécessairement être appliquées partout, sauf la règle de la limite personnelle. Donc, ce que je dirais, tu sais, par exemple, bon, j'avais déjà eu un débat sur ma page sur prendre ou pas le bain avec son enfant. Puis jusqu'à quel âge?
Ça a dû s'ostiner.
Et c'était intense. C'était intense, mais c'était intéressant de voir les valeurs.
Ouais.
Tu sais, question nudité, moi, je pense que le beau-parent devrait faire attention à la nudité devant les enfants du conjoint. Pas mal, peu importe l'âge qu'ils ont. Au-delà de 2 ans, là, garde. Un, pour pas créer de malaise avec l'enfant. Puis deux, pour pas créer de malaise avec l'autre parent. Parce que l'autre parent, on ne sait pas c'est quoi ses valeurs par rapport à ça.
Puis on ne sait pas trop comment ça va sortir, l'information.
Exact. T'sais, fait que moi, je trouverais ça très, très inapproprié, par exemple, que ma fille prenne son bain avec sa belle-mère. Là, c'est sûr qu'à 23 ans, ça serait très, très inapproprié.
Il y a des sites le soir où on voit ça.
Mais, j'aurais pas apprécié du tout.
Ben non.
J'aurais pas été confortable avec ça. Mais je sais qu'il y a des endroits où ça se fait.
Oh oui, écoute, on a chacun nos limites personnelles. Moi, j'ai jamais pris mon bain avec mes gars. T'sais, je me baignais à la piscine avec eux autres, mais j'ai jamais pris mon bain avec mes gars. Mais la mère de mes gars prenait le bain avec les enfants. J'ai jamais pris ma douche avec les gars.
Okay.
Eux vont prendre leur douche. Moi, je les assiste. Là, à 9 ans, là, ils commencent à me dire « Dégage, le père. »
Ouais.
Mais pour ce qui est de mon plus jeune, à 6 ans, je l'assiste. Puis je mets son shampoing dans les mains, puis je mets son savon. Mais peu à peu, lui, il est en train de me dire de m'en aller aussi.
C'est ça.
Mais moi, ce que je me pose comme question, c'est surtout sur le fait que, tu sais, femme versus enfant, homme versus enfant. Tu sais, toi, tu dis, allez-y selon vos limites personnelles.
Mm-hmm.
Moi, ma limite personnelle n'est pas très élevée. Là. C'est aucune nudité dans la maison. Là. Puis je demande la même affaire quand mes gars sont là, ma conjointe. Quand tu sors de la chambre, arrange-toi pour être vêtu sur le sens c'est du ça. Monde. Là. Je veux
alors,
pas
que... à 6 et 9 ans, je trouve ça important, effectivement, ben oui, là, que c'est... là, finalement, on mette ça de côté.
Maman, pour j'ai vu, je sais pas, moi, j'ai vu Sandrine à des plus gros seins que les tiens. Non, non, tu veux
ça.
Pas
ça. Non, c'est ça. Fait que, moi, à 6 et 9 ans, je suis correct. Mais tu sais, des tout petits, 2 ans, 3 ans, 4 ans... Quand t'es son parent,
ouais.
Je trouve pas nécessairement que ça pose problème. Sauf si l'enfant fait preuve d'une curiosité excessive et malaisante. T'sais, par exemple, je pense à un papa qui m'avait dit, écoute, chaque fois que je vais aux toilettes, ma fille a tendance à vouloir venir voir ce que je fais.
Moi, c'est mes chats.
Ah, c'est les choses, c'est mais tu sais, quand c'est les enfants, c'est un peu, tu dis, ben, tu sais, ma fille veut venir voir. Là, je l'ai laissé regarder une fois, mais là, après ça, tu sais, prendre la douche avec, tu sais, puis il dit, moi, prendre ma douche avec ma fille. Non. Il prenait sa douche avec sa fille.
Non.
À 2 ans, 3 ans, mais là, il dit à 4 ans, il dit, elle me pose beaucoup de questions, puis je trouve qu'elle a comme un peu trop d'intérêt pour...
Ben,
pour
c'est pour... ça. Puis les douches sont pas si grandes que ça. Ben, puis les enfants sont pas si grands que ça. Puis des exposés à ça, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Tu veux-tu que je te raconte une histoire?
Mais en même temps, que d'un point de vue pratique, là, papa, tu sais, moi, je fais du camping, là. Dans les campings dans les douches de camping, papa, ils rentrent dans la douche, puis ils se lavent avec leur gars, puis tu sais, je le lave, puis après ça, on sort, là.
Ouais, mais c'est comme une chambre d'hockey.
Oui, c'est ça, il n'y en a pas de problème. T'sais. Le problème vient quand justement l'intérêt est trop là ou qu'un des deux a un malaise. Mais après 5 ans, par contre, là, je te dirais que.
Je vais te raconter une histoire, puis je t'ai déjà raconté cette histoire-là, mais je pense que c'est dans le début de nos collaborations, donc ça date de plusieurs années, mais il y a eu une suite à ça, puis je suis pas mal certain que je t'en ai pas reparlé. Mon goaler s'appelait Marc, OK? Et mon goaler Marc, il invitait régulièrement ses enfants à venir dans la chambre, puis il y avait des enfants de 4, 5, puis 7 ans. C'est pas mon ami en passant, OK? 4, 5, puis 7 ans. Sa fille avait autour de 7 ans, là, 7 ou 8 ans, dans ce coin-là. Et... ben là, une fois, je me suis dit, OK, ben là, il expose sa fille, je trouve pas ça correct. Là. Puis les gars, tu sais, on essayait de se mettre nos couvertes là, pour aller se prendre notre douche, mais tu sais, à un moment donné, ça se voit. À un moment donné, je me suis dit, garde, moi, il dit, tu sais, je vais lui dire que je suis pas super à l'aise au fait que sa fille soit là. Puis là, il me dit, mais là, c'est quoi, là? T'es pudique? Non, c'est pas une question que je suis pudique, c'est que ta fille a 7-8 ans, puis elle nous regarde.
Ouais.
Puis c'est tout à fait normal qu'elle nous regarde parce qu'elle se pose des questions, mais moi, je suis pas à l'aise qu'elle me regarde.
Ben oui.
Et lui, de dire qu'il n'y avait pas, de problème là, puis en ouvrant la discussion, parce qu'au début, j'avais de l'air d'un esti d'épais, là, en ouvrant la discussion avec les gars ont fini par dire, ben oui, tu sais, je veux dire, c'est pas la place d'une petite fille de 7-8 ans dans la chambre de hockey.
Mm-hmm.
Puis par la suite, ben, il y avait juste son petit gars qui rentrait, puis sa fille avait plus accès à la chambre. Quelques années plus tard, hostie, Lévi, le gars, fait d'hiver, Marc Brillant, qui est accusé d'agression sexuelle sur des enfants.
Oh my God.
C'était, je pense que c'était la fille d'un autre gars, là, d'un de ses amis. Là. Mais ça, ça m'avait... Quand vous avez un doute, là, foncez. Là.
Ouais.
T'sais, quand vous avez un doute, foncez. Moi, je me sentais mal. J'ai attendu un match. Puis le deuxième match, j'ai dit, Marc, écoute, tu devrais pas faire ça. Brillant. Puis tu devrais pas faire ça. Puis lui, tu sais, il me prenait quasiment pour un esti d'idiot là, de ne pas vouloir me promener à poil de 20 enfants. Et finalement, ben, il a été jugé coupable. Pis,
coupable de
il va payer pour les gestes qu'ils ont fait. Mais tu sais, je sentais qu'il y avait de quoi qui allait
pas.
Que
ça ne marche pas. Ben, c'est ça. Tu sais, et c'est ça. Je pense qu'il faut se fier à un moment donné à nos feelings de dire... Ben, il me semble que ça cloche, il me semble que ça marche pas, tu sais. Puis moi, je me souviens très bien, justement, quand j'avais fait l'espèce de sondage de prendre ou pas sa douche et le bain avec les enfants, il y a vraiment des gens qui disaient, ben voyons donc, c'est naturel, blabla, on est dans la même famille. Puis là, je dis, OK, mais jusqu'à quel âge, tu sais? Puis moi puis mon chum, on s'était imaginé, tu sais, faire une vidéo en blague où on fait semblant qu'on est dans la douche, mais tu sais, avec nos enfants, mais tu sais, nos enfants sont rendus à 16, 22, 23, là.
Ouais.
Fait que c'est ça, à un moment donné, il faut qu'il y ait un stop quelque part. Puis, En principe, il vient un moment donné où les enfants d'eux-mêmes vont commencer, tu sais, tu l'as dit tantôt, là, vont commencer à être un petit peu plus pudiques.
Ouais.
Rentre pas papa, je suis tout nu, ou tu sais, laisse-moi me laver tout seul. Tu sais, on va le sentir, là, tu sais, qu'eux autres, ils veulent avoir comme un peu plus d'intimité. Puis ça va être important que nous autres, on respecte ça. Là. À partir du moment où l'enfant commence à se cacher un peu, ben ça veut dire que c'est le temps qu'on y monte à se laver tout seul, puis qu'on soit un petit peu moins superviseur là-dessus.
Ouais. Il était chanceux parce que son nom a été mentionné dans le Journal de Québec, mais quand il s'est fait pogner, c'était le temps où il fallait mettre des masques là, pour aller au palais de justice. Ah, fait, tu sais, souvent, la vraie sentence...
Sa face, on la voit pas tant.
La vraie sentence, c'est quand tu y vois la face, puis sa face est dans le journal. Fait que là tu sais, sa famille est au courant de ça, ses amis sont au courant de ça, l'employeur est au courant de ça. Moi, ça m'avait fait mal au cœur.
Oui, aussi.
Tu sais, puis c'était des victimes qui étaient autour de 12, 13, 14 ans. Là. Okay. Ça m'avait vraiment fait mal au cœur, mais regarde, il va payer le prix, là, puis pour longtemps, c'est la bonne nouvelle.
En même temps, je voudrais juste être sûr que les auditeurs comprennent pas que toute personne qui se montre nue devant un enfant de 7-8 ans est forcément un abuseur. T'sais, non, mais il y a peut-être quelque chose, un problème au niveau des frontières, par exemple.
Ben, oui, t'es une petite bien douce. Moi, je suis pas de même. T'sais, si tu te prends encore tout nu devant ta belle-fille de 8 ans, c'est que t'as peut-être un problème entre les deux oreilles, là. Faudrait peut-être que tu règles ça.
Oui.
Quel ben, intérêt?
Oui, en même temps, il y a une question de valeur là-dedans. T'sais, écoute, il y a vraiment des familles aussi qui font ça du nudisme. T'sais.
Ah, je l'ai vu, moi. Écoute, ma première blonde, peut-être 15-16 ans, Caro qu'elle s'appelait, super gentille, elle était dans le bain. Je savais qu'elle était dans le bain, j'attendais dans sa chambre, puis je savais qu'elle était dans le bain. Son père est passé dans le corridor, il a ouvert la porte des toilettes, il a baissé le bain, il s'est baissé les culottes, il a fait caca, puis il parlait à sa fille qui était dans le bain. Moi, je trouvais ça complètement hallucinant.
Oui.
Mais pour eux autres, c'était tout à fait normal.
Exact.
Mais moi, mon point est plus quand t'es un beau-père ou une belle-mère.
Ouais, ouais, ça,
juste
c'est
plus
ça.
Te
non,
surveiller.
Ça, oui. Ouais, ouais.
Puis de l'autre côté, tu sais, quand il n'y a pas un enfant qui aime ça entendre ses parents jouir, là.
Non, non, effectivement.
Fait que,
je suis
quand t'as une chanteuse d'opéra, tu peux lui dire de baisser le ton un peu, là.
J'attendais pas celle-là.
Ben, c'est parce que je sais pas
qu'est-ce que
ça peut avoir comme impact chez les enfants, West Nancy. Mais...
Est-ce que ça va être traumatisé? Non, mais est-ce que c'est désagréable pour eux? Oui. T'sais, faites juste, OK, imaginez là, que vous avez une conversation avec vos propres parents, puis qu'ils vous racontent les détails de leur vie sexuelle. Ça vous tente-tu vraiment d'entendre ça? Bien, vos enfants, ils n'ont pas envie de connaître votre vie sexuelle non plus. Et si c'est le cas, qu'ils veulent vraiment connaître votre vie sexuelle, bien, il faudrait se poser la question pourquoi. Là, il y a comme peut-être quelque chose. Mais t'as raison, il y a vraiment une question de frontières. Puis, tu sais, l'exemple que tu redonnais, tu sais, de la fille est dans la douche, puis son père va aux toilettes.
Puis il se parle, numéro 2.
Puis il se parle, oui, c'est ça. Tu sais, c'est très banal dans cette famille-là. Il n'y a rien de mal là-dedans, mais si on me demandait conseil, je leur dirais, ben mettez donc des frontières. Là. Commencez à mettre des frontières parce que l'absence de frontières à inculquer comme valeur à votre jeune fille, votre jeune homme, ben il risque d'avoir la perception que c'est ça la normalité, puis faire la même chose ailleurs, puis ça va créer des malaises. T'sais, fait que si la fille, elle, chez elle, se promener flambant nu devant son père, sa mère, partout, ça pose pas de problème, ben ça se pourrait, pas forcément, mais ça se pourrait qu'elle ait pas le réflexe d'être un pudique dans d'autres situations, puis créer des malaises.
Moi, j'ai plus un malaise, le beau-père, belle-mère. Je pense que les gens devraient faire un peu plus attention, mais je suis pas mal persuadé que la majorité des gens qui entendent sont entièrement d'accord avec mes propos. Là,
oh, les beaux-parents, on se cache. Puis même les parents, je vous dirais, là, après l'âge de 5-6 ans, là, moins possible, moins possible.
Tu as parlé du trouble d'opposition.
Ouais.
OK.
Sujet complètement différent.
Comment te dire? J'ai l'impression qu'il y a des communautés qui l'acceptent peut-être un peu plus, le trouble d'opposition. J'ai eu la chance, moi, d'être gestionnaire. Puis j'avais des employés qui étaient québécois, j'avais des employés qui étaient français.
Okay.
Puis j'avais ces discussions-là avec les Français, parce que les Français ont régulièrement des troubles d'opposition avec les patrons. Aiment beaucoup discuter, argumenter, remettre en question. C'est dans leur nature. C'est des gens qui ont une curiosité, puis c'est comme ça. T'sais. Puis je parlais avec des policiers de la Ville de Québec, puis il y a certaines communautés où il faut qu'ils te touchent pour te parler.
Oui.
Quand tu échanges. Mais pour les policiers à Québec, là, je veux dire, quand il fait affaire faire avec un blanc. Là, le blanc, il est aussi bête de ne pas y toucher, ça va mal aller. Là.
Ouais.
Mais pour certaines communautés, il touche. Les Français questionnent souvent.
Remettre plus en question.
Je me pose la question, chez les enfants, le trouble d'opposition, il peut-tu y avoir un peu de positivisme à l'opposition?
Ben, en fait, c'est ça. Il faut faire la différence, premièrement, entre l'opposition et le trouble de l'opposition.
Okay.
C'est pas la même affaire.
C'est pas la même affaire.
On peut avoir un tempérament opposant, toi, qui va faire que c'est quelqu'un qui n'aime pas trop se faire diriger, qui n'aime pas trop se faire dire quoi faire, qui va se braquer un peu plus facilement à l'autorité. Tu sais, je pense à un enfant, maintenant, on se braque plus facilement à l'autorité. Ma fille a un tempérament opposant. Tu sais, elle a hérité de la graine de la tête de mule en double. Tu sais.
Ouais.
Fait que ma fille, plus je veux qu'elle aille à droite, plus elle va aller à gauche. Plus je voulais qu'elle mette un manteau, plus elle avait chaud.
Sauf que d'un autre côté, avec son chum, elle ne se laissera pas diriger.
Exact.
Fait que ça doit te rendre un peu fière.
Ben oui, tout à fait. Tu sais, ouais. Moi, je me disais, puis tu sais, elle peut être très, très douce dans plein de situations, mais elle, c'est, ben moi, je vais mener ma vie comme moi, je l'entends.
Exactement.
Tu sais, là, présentement, elle étudie à Rimouski, même si son chum est au Saguenay, puis elle était prête à mettre cette relation-là en péril en disant, ben moi, je vais pas sacrifier mes rêves pour quelqu'un, là. Tu sais, moi, mon rêve, c'est ça, mais je vais aller le faire. Puis s'il veut pas m'attendre, ben just too bad. Tu sais, fait que ça y amène une belle drive qui va y servir toute sa vie. Puis, ben écoute, en plus, elle a fait de la boxe pendant 9 ans. Fait que je me disais, moi, le gars qui essaye d'avoir les mains trop longues, il est dans le chenou. Mais ça faisait mon affaire. Mais ça fait des enfants qui sont peut-être un peu plus difficiles à éduquer.
Oui. Ah, ça tape.
Et oui, ça fait pas des employés dociles plus tard.
Exact.
Ça fait des employés qui vont plus facilement lâcher une job où ils se sentent pas respectés, plus facilement contester l'autorité. Fait que moi, je trouve que s'ils apprennent à bien doser ce tempérament opposant-là, qui sont aussi capables de collaborer dans certaines situations, de se fermer à trappe quand c'est vraiment le temps de se fermer à trappe.
Ouais.
Parce que, tu sais, des fois, tu peux ne pas être d'accord avec une règle, mais garde, elle est là, ouais. Faut-il mener. Puis qu'ils partent pas en croisade sur tout non plus. Mettons, les fameux masques, là, on pouvait être contre les masques. Je vois-tu rentrer au magasin, pas de masque, puis faire suer la personne à l'accueil parce que moi, je suis pas d'accord contre les masques, puis je vois-tu en faire une croisade. En tout cas,
non, je suis entièrement d'accord. C'est juste qu'il y a des peuples où on dirait que l'opposition, ils l'acceptent plus facilement. Oui. T'sais, les Italiens, les Espagnols, ouais. Sans chaud, peu, là. C'est ce que tu es en train de dire là, ça marche pas, puis.
Ils vont s'ostiner plus. Puis eux autres, en plus, dans leur culture, fait que c'est correct, c'est pas mal vu.
Exact.
Mais tu sais, moi, je pense que ça peut être... Effectivement, il peut y avoir beaucoup de bons côtés, même si ça fait que c'est des enfants qui sont plus difficiles à éduquer. Un trouble de l'opposition, ça, c'est autre chose. On y est souvent en disant « Ah, moi, j'ai un trouble d'opposition. » Un trouble de l'opposition, là, c'est beaucoup plus intense que ça. Un enfant qui a un trouble de l'opposition s'oppose sur tout, partout, tout le temps, même pour des choses banales comme si je lui désigne une chaise, je lui dis « viens t'asseoir ici », il va vouloir s'asseoir sur une autre chaise. Toutes les règles...
Tu veux-tu un verre d'eau? Tu y amènes un verre d'eau? Il dit « non, je veux juste l'eau. Je veux pas de verre.
» Non, mais tu sais, mettons, si tu veux-tu un verre d'eau, ça va être « non, mais même s'il a soif, il va exiger autre chose.
Hey. »
Toutes les consignes les plus banales pour un enfant qui a un trouble d'opposition, là, ça part en lutte de pouvoir. Là, va prendre ta douche, ça va prendre 20 minutes avant qu'il aille.
Yish.
Là, ça prend des menaces de conséquences pour qu'il finisse par y aller. Puis ça se peut qu'il aille dans sa douche puis qu'il se lave pas juste parce qu'il voulait que tu te laves. T'sais, tout est lourd, tout est compliqué. Puis ça fait aussi des enfants qui sabotent tous les bons moments. Donc, on les entend peu rire pour vrai, ils ricanent. Chercher tout le temps à confronter l'autorité, à contourner les règles, quitte à se mettre dans le trouble. On leur fait un compliment, bien, dans demi-heure ou dans les 5 minutes qui suivent, ils vont faire un mauvais coup.
Faire le contraire.
C'est ça. Mais ils sabotent.
Qu'est-ce qui nous pousse à, je sais pas moi, créer des enfants de même? Y a-t-il quelque chose qu'on fait de mal?
En fait, c'est souvent un combo entre, moi j'appelle ça la règle des tiers. Le premier tiers, ça, c'est le kit de base. Donc, l'enfant naît avec un tempérament, un type d'intelligence. On va voir plus d'enfants avec des troubles d'opposition chez des enfants qui ont, par exemple, un TDAH ou un syndrome Gilles de la Tourette, au potentiel intellectuel. Ça peut être un facteur de risque aussi. Mais, tu sais, bon, bref. Fait que donc, quel type d'enfant, le kit de base, avec quoi il arrive? Ensuite, deuxième tiers, c'est plus les parents. Justement, on s'est parlé d'attachement tantôt. Il y a un très fort taux d'enfants avec des troubles d'opposition qui ont des enjeux au niveau de l'attachement, sans nécessairement que ce soit un trouble d'attachement, qui ont eu des blessures d'attachement ou des enjeux où ils ne se sentent pas aimés, pas aimables. Comme parent, ben, ça pourrait être un parent qui est trop mou, ou ça va arriver plus souvent chez des parents qui sont trop sévères. Moi, j'appelle ça des parents qui sont dans la surintervention, qui sont tout le temps derrière l'enfant pour lui dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, trop strict, rigide, okay. Beaucoup de critiques, beaucoup de punitions et la fameuse discipline basée sur la peur. Donc ça, on va voir beaucoup de jeunes qui ont des troubles d'opposition qui sont là. Un des facteurs de risque chez les parents aussi, c'est quand il y a deux parents avec des styles parentaux complètement différents. Un parent qui est très dans la douceur, des bonheurs, qui laisse passer beaucoup, puis l'autre parent qui c'est le général de l'armée. Et là, les deux parents qui, généralement, en plus, vont exprimer leur désaccord un envers l'autre, l'enfant se retrouve un peu coincé entre les deux, il ne sait plus trop lequel a raison, fait que ça c'est régulier.
All right. Hey, on en a appris des affaires à soir.
Ouais.
Ouais, tu vas toujours revenir. C'est toujours aussi intéressante. Pour les gens qui ont peut-être certaines problématiques familiales peuvent te rejoindre de quelle façon?
SOSNancy.com, mais vraiment, ce que je suggère, c'est que les gens s'abonnent à ma page Facebook, SOSNancy Coaching Familial. Écoute, j'ai une équipe extraordinaire. On pose des affaires gratuites là, à tous les jours. Des affiches, des PDF, on a des petites formations gratuites, des trucs sur YouTube. Fait que, tu sais, c'est vraiment là. Puis les gens, c'est là aussi où ils sont au courant un peu de l'actualité SOSNancy. Oui. Donc, si j'ai une formation en promotion, si j'ai une conférence quelque part, on le met tout le temps là, fait que les gens sont au courant. Fait que, en plus d'aller cliquer « J'aime », abonnez-vous, ça va être le plus simple.
Tu t'occupes-tu des chums fatigants? Ben?
Oui, je fais tout ça.
SOSNancy.com. Toujours un plaisir. À tous, un excellent vendredi soir. Je souhaite de passer